Qu'est-ce que la foi ? Alors, il faut tout d'abord distinguer le fait de savoir que Dieu existe et le fait de croire que Dieu existe. Savoir que Dieu existe ou pressentir que Dieu existe, ou pressentir le surnaturel, l'au-delà, tout cela relève de la raison. Tandis que la foi, c'est quelque chose de surnaturel, de révélé. C'est important de distinguer ce qui est de l'ordre de savoir que Dieu existe, ce qui est de l'ordre de pressentir que Dieu existe, ou pressentir l'au-delà, qui est de l'ordre de la raison et de la foi. Souvent on dit « j'ai la foi » ou « j'ai pas la foi », mais il serait peut-être bon d'abord d'examiner notre raison. Et que nous dit notre raison ? Si je dis ça, c'est parce qu'il y a quelques années, j'avais lu un livre sur les croyants en général, dans le monde entier, et on disait qu'en gros, plus de 85% de la planète est croyante, et que 15% sont des non-croyants, on pourrait dire. Peut-être derrière, il y a des athées, des agnostiques. Et que quelque part, la perception qu'on a, nous, en France, de la foi, peut sembler quelque chose d'extraordinaire, parce que nous sommes dans un continent, le continent européen, qui est très déchristianisé, très matérialiste, très sceptique, nihiliste, et que quelque part, c'est très étonnant de rencontrer des gens qui ont la foi et qui en parlent ouvertement. Mais à l'échelle mondiale, c'est complètement l'inverse. Quand on pose la question à quelqu'un d'Océanie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, il lui dira « mais tu crois pas en quelque chose, t'es pas normal ». Très intéressant. Et de voir aussi que dans l'histoire des hommes, ça a toujours été ainsi. Depuis l'homme des cavernes, l'homme a toujours pensé à l'au-delà. L'homme, je ne suis pas anthropologue, mais l'homme, par exemple, enterrait ses défunts en mettant des armes, des fruits, des instruments pour lui faire faire le passage, s'il avait à combattre des esprits, prendre des éléments pour tenir dans le chemin. Et puis les hommes ont projeté ce qu'ils étaient sur l'au-delà. Par exemple, on a l'Olympe grec, mais on pourrait dire l'Olympe aussi romaine, où on voit que les dieux ressemblent beaucoup aux hommes. Conflits, jalousies, guerres, adultères, rapports de pouvoir, tromperies, etc. Mais toujours est-il, il y a toujours le sentiment de l'au-delà. Et ce sentiment-là, de l'au-delà, ou du Dieu, ou des dieux, quelque part, il est tout le temps dans l'histoire. Il est dans la culture. Il est dans les questionnements de la personne humaine, sur le sens de « y a-t-il quelque chose après la mort ?» Sur l'art, depuis les cavernes jusqu'à maintenant. C'est que très récemment, au XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle, que s'est répandu l'athéisme, ou du moins la remise en cause de l'au-delà. Et comme on est le continent où quelque part est née cette pensée, on croit que c'est la norme, mais ce n'est pas du tout le cas. Et ce qui est très intéressant, c'est de, quelque part, se dégager légèrement de cela pour réfléchir à nouveau frais sur est-ce qu'au niveau de la raison d'abord, on peut penser crédiblement que Dieu existe, qu'il y a l'au-delà. Et je dirais, il y a une manière large d'aborder la question et une manière précise. Dans les deux cas, c'est la raison. Savoir que Dieu existe ou pressentir l'au-delà ou pressentir que Dieu existe, c'est de l'ordre de la raison. On pourrait dire d'abord au niveau de la nature, le cosmos, et après au niveau du cœur de l'homme, ce qui le motive. Tout d'abord au niveau de la nature, le cosmos. On pourrait dire d'abord que l'homme pressent, normalement, que la nature est organisée dans une logique. Il y a de la pensée dans les atomes. Il y a de la pensée dans l'organisation d'une graine qui devient une plante, qui devient un arbre. Il y a de la pensée dans l'équilibre des planètes, la gravité, la rotation, la révolution de la Terre. Il y a de la pensée, et c'est pour ça que nous étudions cette pensée, quand nous faisons de la biologie sur les animaux et sur le corps humain. Et on est fasciné, ne serait-ce que récemment, par les neurosciences. Donc, l'univers, l'être humain lui-même, est fait de pensée. Et s'il n'y avait pas de pensée, il n'y aurait pas de science, parce que la science mesure la pensée de l'univers. Et ce qui est très intéressant, c'est par exemple chez les Grecs, les Grecs ont commencé à penser la science, parce que d'abord ils se sont dit « les étoiles sont harmonieuses et organisées », parce que derrière ça, les dieux organisent bien les choses. Donc pour eux, le postulat, c'était de dire « le monde est fondé sur la pensée ». Et donc nous avons à étudier cette pensée. Et donc elle est organisée. Et derrière ça, il y avait l'idée qu'il y avait quelque part une intelligence créatrice, un ordonnancement des choses. Et ça, beaucoup de civilisations le pressentaient. Et ça, quelque part, on peut dire, c'est de la raison, c'est du bon sens, que ce soit avec la science, avec l'art, la contemplation de la beauté, de la gratuité, on voit que les choses sont bien faites, sont harmonieuses. J'aime à dire, vous pouvez mettre des lettres dans un carnet, les secouer, le carnet, vous n'aurez pas un texte. Vous pouvez mettre des cellules dans une éprouvette, les secouer, vous n'aurez pas un bonhomme. Il y a de la raison qui a fait les choses. Et aujourd'hui, par exemple, dans notre société occidentale, les astrophysiciens eux-mêmes se reposent la question de Dieu en voyant la complexité de l'univers et son organisation précise. Donc, c'est intelligent de dire que le monde est fondé sur la raison. C'est rationnel. L'inverse, ça voudrait dire que c'est chaotique. Et que si c'est chaotique, rien n'est mesurable, rien n'a de sens, et même notre vocabulaire, notre langage, qui fait référence à chaque chose, ne dirait pas vrai, parce qu'aucune chose serait vraie. Donc on serait dans l'irrationalité la plus absolue. Donc c'est du bon sens de penser que le monde est cohérent, puisqu'on le mesure, et que notre langage est basé sur des faits référentiels qui disent des choses précises qui sont mesurables. D'accord ? Eh bien ça, c'est de l'intelligence. Et si le monde est intelligent, d'où vient cette intelligence ? Parce qu'une pensée ne vient jamais du hasard. Une pensée vient de la pensée. La deuxième chose, c'est le cœur de l'homme. Il est étonnant de voir que l'homme, dans l'histoire de l'humanité, il est toujours mu par quelque chose de plus grand que lui. Alors soit il s'illusionne, soit ça fait partie de son kit d'être humain. Alors on pourrait dire c'est peut-être une exception, mais c'est le cas pourtant de tous les hommes. Tous les hommes sont mus, désirent, sont attirés par le beau, le vrai, le bien. Tous les hommes, quand ils font quelque chose, cherchent la perfection. Un artiste qui va faire une œuvre d'art ne tend jamais, il tend vers la perfection, il n'y arrive jamais, mais il recommence sans cesse. Et on sait bien pourtant, on dirait, mais la perfection, entre guillemets, n'est pas de ce monde. Et pourtant, c'est ce qui le motive à faire une œuvre d'art. Comme si finalement, il voulait aller toujours plus loin, toujours plus grand. Il voudrait aller, comme on dit en musique, dans le sublime. Et pourtant, le monde n'est pas sublime. Il est beau, mais il n'est pas encore sublime. Et l'être humain veut toujours ça, veut magnifier. Et ça, c'est valable dans toute l'histoire de l'art. C'est le propre de l'homme de chercher ce qui est beau et de le dépasser. Très intéressant. C'est marrant, l'homme cherche aussi à savoir le vrai. Et il veut toujours comprendre et se satisfaire du vrai. Et quand on ne lui donne pas de vrai, il pose toujours des questions, il pose toujours des questions. Et quand on lui dit de toute façon, il n'y a pas de vrai, comme on le dit bien souvent à notre époque, qu'est-ce qui se passe ? On pourrait dire ça le rassure, pas du tout. Ça le rend désespéré, il se suicide. Ça veut dire que profondément, l'homme, il est fait pour le vrai. C'est dans ses tripes. Il veut des vraies réponses. L'homme est fait pour le bien. L'homme est tellement fait pour le bien qu'il fait de l'humanitaire. Il invente des droits de l'homme, des lois qui sont là pour garantir le bien commun et le bien de chacun. Et l'homme rend l'éloge de ceux qui donnent leur vie par gratuité, les services de la charité, l'humanitaire, etc. Donc on sent que l'homme veut dépasser sa propre condition, toujours faire le bien de l'autre, etc. On ne voit pas un animal qui est prêt, il peut sacrifier, une petite louve peut peut-être sacrifier sa vie pour ses loupiots, mais on ne voit pas un animal qui veut se transcender pour le vrai, avoir une réponse vraie de sa vie, ni chercher le beau, le sublime, ni sans arrêt chercher le bien. Et plus encore, on ne voit pas un animal qui se dit « je vis, et puis après je vais mourir, c'est grave, Le poisson rouge, le chien ne se dit pas « je vis, pourquoi je vis ? Vers où je vis ? Dans quel sens va ma vie ? Et puis un jour je meurs, oh là là !» Or, c'est le propre de l'homme, puisque l'homme de tout temps s'est posé ces questions. Très intéressant. Alors, deux choses. Est-ce que l'homme, finalement, il y a un défaut de fabrique ? Et finalement, il ne devrait pas se poser les questions. Et il devrait se dire « je vis, point barre, je meurs, basta ». Or, on remarque que la mort est un scandale pour tout le monde. Et que toujours les hommes essayent de résoudre cette question. Et certains disent « vivre, c'est apprendre à bien mourir ». Donc il faut apprivoiser ça. C'est très intéressant. Et d'un autre côté, si c'était finalement, si l'homme c'était naturel ça, et qu'on ne devrait pas dire « il n'y a rien après », ça veut dire que l'homme, quelque part, il serait cassé. Il devrait être comme les autres animaux, ne pas se poser cette question. Or, il se la pose tout le temps. On pourrait dire à ce moment-là, il est contre nature à sa nature d'être humain qui ne devrait pas se poser cette question. Ou alors, c'est dans sa nature de se poser cette question, et l'être humain est un être, quelque part, à dimension de l'au-delà, de l'après la mort, et il se pose sans arrêt cette question. Et ça, on voit que c'est la raison au sens large, c'est-à-dire le bon sens humain, qui réfléchit dans la nature, dans la création, sur le sens, l'harmonie, la gratuité, et dans son cœur, mu par le beau, par le bien, par le vrai, par les questions de la mort, etc., qui voit que la question de Dieu est omniprésente. Et donc, c'est rationnel. C'est profondément rationnel. C'est savoir que Dieu existe, pressentir l'au-delà ou pressentir Dieu, tout ça, c'est de l'ordre de la raison. Et plus encore, j'ai parlé de la raison au sens large. Je peux maintenant parler de la raison au sens précise. La raison au sens précise, on pourrait dire, elle est née avec ses codifications comme les maths, etc., en Grèce, avec les philosophes grecs, où on a mis en place la logique, le raisonnement, c'est-à-dire un niveau d'abstraction du réel, qui n'ont pas sur réel ou n'importe quoi, mais qui est une réflexion sur le réel, en se posant vraiment des questions et en déduisant des choses, des raisonnements, etc. Et en fait, des penseurs qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont pas des déistes, des gens qui croient en un seul Dieu, ont démontré l'existence de Dieu. C'est très intéressant, rationnellement. Et leur démonstration tient encore aujourd'hui. Aristote démontre avec la raison pure l'existence de Dieu, d'un principe premier. C'est très intéressant. Et l'Église a repris cette idée, non pas d'Aristote simplement, mais de dire l'être humain est capable d'arriver à la connaissance de Dieu par sa raison. Au Moyen-Âge, on s'en est servi de cela. Thomas d'Aquin reprend Aristote, mais le Concile Vatican I va dogmatiser ce point qui sera repris dans Vatican II, pour dire qu'en fait, il y a une voie possible par la raison de découvrir Dieu. Parce que Dieu, s'il existe, il est rationnel. Et donc ma raison me permet de faire un chemin. C'est très intéressant. Et donc quelque part aujourd'hui, si nous sommes tellement dans le scepticisme, le doute là-dessus, et qu'on se réfugie que dans la foi, c'est que notre raison, elle est malade. Elle est conditionnée par une époque qui est hyper sceptique. Les fameux 15% du continent athée sur le pays l'un des plus athées. Et voyez, on est malade intellectuellement et il faut nous guérir là-dessus. Il faut repenser les choses, il faut s'aérer. Parce qu'on est malade, on a du mal à voir dans la nature l'œuvre de Dieu et de penser qu'il y a une cause première à tout ça. On a du mal à sentir que le désir de bien en nous, le désir d'absolu, le désir de vrai, est en réalité mû par une source de tout cela qui est au-delà de nous, qui est la source du beau, du vrai, du bien. On a du mal à penser que parce que nous pensons la mort sans arrêt, que nous nous préparons, c'est en réalité dans l'ordre des choses, il n'y a rien de scandaleux et que nous allons vers une fin ultime. Et c'est pour ça que sans arrêt, comme on n'y pense pas, on est en mode marche arrière, et on dit « je veux rajeunir, je vais vivre très 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 longtemps ici-bas ». Parce qu'en fait, on n'a pas de sens, on n'a pas de finalité à notre vie. Ça, c'est la raison. Il faut le retrouver. Et donc, quelque part, disait Jean-Paul II, dans son encyclique Fides et Ratio, la raison et la foi sont comme les deux ailes qui permettent à l'homme d'atteindre la vérité. Et nous ne devons pas nous atrophier au niveau de notre raison. Nous devons chercher les arguments plausibles pour dire effectivement Dieu existe, effectivement il y a un sens à la vie. Il y a une organisation cohérente du monde. Il faut pouvoir le faire. Maintenant, nous allons parler de la foi. Donc, on n'est plus dans le domaine de la raison, On est dans le domaine de la foi, mais on n'est pas dans le domaine de l'irrationnel. On est dans le domaine, j'appellerais ça, du suprarationnel, c'est-à-dire du plus intelligent que notre intelligence, mais ça reste intelligent. Parce que si Dieu existe, il est plus intelligent que nous, puisqu'il a tout pensé. Et donc il va nous donner des éléments sur lui, pour le connaître, qui sont très intelligents, mais au-delà de notre intelligence. Et donc ce niveau-là, c'est la foi. La foi, on va dire deux choses. C'est un don de Dieu, d'abord, et c'est un acte de l'intelligence de l'être humain, un acte de confiance. C'est un acte de l'intelligence, un acte de confiance. D'abord, il faut dire que la foi, ça vient du fait que Dieu parle. Dieu se révèle. C'est-à-dire que nous pouvons connaître des choses sur Dieu, des indices sur Dieu. Comme dirait un célèbre auteur de bande dessinée, des indices pensables. Des indices sur Dieu, toujours est-il, le Dieu, ou alors le moteur, ou alors la cause première qui a créé tout ça, je ne rentre pas en contact avec elle. J'ai des arguments plus ou moins plausibles, si je réfléchis bien, si je pense bien, pour dire il y a quelque chose au-dessus de moi. Mais je ne rentre pas en contact avec elle. Parce que cette pensée, cette idée, est trop grande pour moi. Et c'est la foi qui va permettre cela. C'est-à-dire, Dieu lui-même va se révéler. Et il se révèle en parlant. De là est née la parole de Dieu. Abraham fait l'expérience qu'il y a un unique Dieu, au-delà de la création, au-delà simplement des projections de l'homme, du sentiment du divin, avec le polythéisme, mais qui est un Dieu unique, qui est au-delà de la création, donc au-delà de toute projection simplement humaine. Et il se met à parler. C'est très intéressant. Il se met à parler. Et il parle avec Abraham. Et Abraham est le père des croyants, le père dans la foi. C'est ça. Et autour de lui va petit à petit se créer un peuple, le peuple d'Israël, qui est le peuple des croyants. Et de génération en génération, c'est important le terme génération, ils se transmettent la foi. Donc la foi, c'est une transmission de génération en génération de l'irruption de Dieu dans la vie de quelqu'un, parce que Dieu a parlé par sa parole. Dieu s'est révélé à nos pères, à Abraham, à Moïse, à Jacob. Et il parle. Et il parle à la fois dans un langage humain et à la fois dans un langage qui est divin. Il parle à travers les hommes et ça les dépasse. Des mots importants pour parler de la foi, c'est écouter, c'est suivre, c'est voir, demeurer, toucher. C'est aussi la lumière. On pourrait dire la foi, c'est du côté de l'homme, donc c'est un don de Dieu d'abord, parce que c'est Dieu qui parle, Dieu qui surgit, Dieu qui rentre en contact avec quelqu'un et qui le familiarise. Abraham et le peuple d'Israël s'est familiarisé au contact progressivement. Donc la foi demande du temps. Et la foi, quelque part, est une rééducation du sens du Dieu, de l'origine des choses. Une rééducation sur la vision que j'ai du monde. Je vois avec un sens plein. Et pour ça, c'est du côté, donc quelque part, dès notre baptême, nous avons reçu la capacité de la foi. J'en parlerai tout à l'heure. Mais de notre côté aussi, la foi, c'est un acte d'obéissance. On m'a dit que le terme obéissance veut dire ob audire, écouter du dessous. Ça veut dire écouter quelque chose qui est plus grand que mon intelligence, mais qui peut m'éclairer. Ça veut dire c'est plein de sens, et quand j'écoute dans la foi, c'est ça l'obéissance dans la foi, à la parole, je ne démissionne pas sur mon intelligence, je peux faire toutes les recherches que je veux, mais à un moment donné, j'accueille une parole plus grande que moi, qui va me donner le sens, et plus que le sens, le contact vivant avec Dieu, ce que mon intelligence ne me donnerait pas. Et c'est pour ça que saint Augustin dit, si tu veux connaître Dieu, crois d'abord pour comprendre, et non réfléchis d'abord et puis après tu vas croire. Tu peux réfléchir d'abord pour penser si Dieu existe ou pas, mais si tu veux rentrer avec Dieu en contact, tu crois d'abord, tu fais l'expérience, et après tu comprends mieux. C'est exactement ce que dit Jésus au chapitre 1 de Saint Jean, versets 35 et suivants. On a lu versets 35 et 39. Les disciples dirent, « Maître, où demeure Jésus ? Que cherchez-vous » Il leur dit. Et ils lui disent la question, « Maître, où demeures-tu ? » C'est chargé de sens. Peut-être que ça veut dire, « Maître, on sent que tu as des réponses à nous apporter, que tu as la vie éternelle, que tu es le Messie, ou on ne sait pas encore ce qu'ils pensent. » Et Jésus leur dit, « Vous allez faire l'expérience. Venez et vous verrez. » Et Philippe reprendra cela quand il verra Nathanaël après. Dans les versets suivants, il dit, « Celui qu'annonçait la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël, dubitatif, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? Et Philippe lui dire, « Fais l'expérience. » Viens et vois. Saint Augustin, crois pour comprendre. Donc la foi nous engage à un décentrement, à un acte qui pose, j'ai pas mal de raisons de penser que, et d'autres dans la transmission me disent que, et je vais poser un acte de confiance, non pas de démission, mais de confiance, et je vais expérimenter. Crois pour savoir. Et donc on voit que les termes écouter, suivre, voir, demeurer, toucher, correspondent à la foi. Écouter, c'est apprendre à entendre Dieu parler, qui se révèle. Suivre, c'est justement décider de marcher dans la confiance et de faire cette expérience. Voir, ça fait référence par exemple dans Saint Jean, au chapitre 20, où Saint Jean qui rentre dans le tombeau ne voit plus rien et il est dit, il vit et il crut. C'est-à-dire voir dans la foi, c'est pressentir par l'Écriture, par la compréhension de l'Écriture, de la transmission, la réalité telle qu'elle est. C'est pressentir le surnaturel, voir dans la foi. Et demeurer, ils virent où il était et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, nous dit Saint Jean au chapitre 1, verset 35-39. Demeurer, c'est repris souvent, Jésus dit « demeurez en moi ». Comme je demeure en vous, l'Esprit demeurait sur lui, etc. C'est véritablement vivre dans la foi, décider de vivre dans la foi. Et on peut même dire toucher. La foi, c'est aussi toucher. C'est-à-dire que, par exemple, on va parler des sacrements de la foi. Le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage, tous les sacrements, l'ordre, la réconciliation, sacrement des malades, c'est des sacrements de la foi. Et nous touchons celui qui parle, celui qui se révèle dans les sacrements. Et c'est la source même de la foi, c'est le contact le plus fort. On est touché dans le sacrement. Et ce que dira Saint Jean dans une de ses épîtres, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. C'est ça. Donc on voit que la foi, c'est écouter, c'est suivre, c'est voir, c'est vouloir demeurer, c'est toucher. Donc en fait, la foi, c'est profondément une action. Et d'où on parlera d'actes de foi, poser des actes de foi. Et donc, permettez-moi de faire cette remarque, quand on dit « je suis croyant non pratiquant », c'est en gros « je suis un croyant qui ne pose pas d'actes de foi ». Donc en fait, je suis très peu croyant, parce que la foi est générée par les actes qu'on pose. Donc en fait, le croyant non pratiquant, sans juger son cœur, et ça, seul Dieu peut le faire, est en réalité quelqu'un qui pressent les choses, mais qui ne vit pas sa foi. Donc il n'est pas vraiment croyant. Il est plutôt un questionnant de culture chrétienne, pour nous chrétiens. Parce que la foi est une action. Elle demande d'écouter, de suivre, de voir, de demeurer, de toucher. La support de notre foi, d'abord, c'est la parole de Dieu. Mais c'est quoi la parole de Dieu ? Confère Dei Verbum, la constitution sur la parole de Dieu dans le Concile Vatican II, c'est la tradition et l'écriture. Dieu se révèle à nos pères. Nos pères nous transmettent la foi, ils parlent aux apôtres, ils parlent en Jésus, etc. Donc ils parlent. Et c'est transmis comment cette parole ? Par la tradition. Ces deux éléments sont la parole de Dieu. Et quand vous voyez par exemple que Philippe va voir Nathanaël, Philippe c'est un apôtre. C'est la tradition qui va dire, apporter la parole Jésus à Nathanaël. Et c'est notre support. Et donc pour nous, ce qui est très important, nous en parlerons tout à l'heure, c'est quelque part, si la foi est une lumière, elle éclaire au-delà de ce que je peux comprendre, me faire voir dans l'obscurité. C'est pour ça que le pape François a fait une encyclique Lumen Fidei, la lumière de la foi, qui me permet de comprendre au-delà de ma pure raison. Et bien cette lumière, si je veux l'accueillir pleinement, il me faut la recevoir par le moyen dont elle se véhicule, qui est la tradition et la parole. Le risque sinon d'atrophier soit la parole, soit la tradition, c'est d'atrophier pour moi la capacité de contact avec Dieu. Et donc du coup d'avoir une lumière restreinte. Au lieu d'avoir un très bon halogène, j'aurai plus qu'une bougie. Et donc j'aurai un contact avec Dieu diminué. Parce que nul ne peut se prétendre découvrir seul Dieu, puisque Dieu a voulu se transmettre de génération en génération, par des médiations qui sont les hommes. Il serait bien orgueilleux de penser que par notre pur raisonnement, on pourrait connaître tout seul Dieu. Je termine par deux images dans le cinéma. Donc on voit aussi la foi, c'est une, quelque part, c'est un réapprentissage à vivre en présence du sens profond de nos vies sur le cosmos, tout ça ordonné vers Dieu et de rentrer en contact avec Dieu et de petit à petit d'apprendre à suivre, à écouter, à demeurer, à toucher, à voir d'une manière différente. Et ça se fait dans le temps, dans la manière dont l'histoire s'est révélée, dont Dieu s'est révélé, mais ça se fait la même chose pour nous. Quelque part, on va petit à petit rentrer dans le bain de la foi. Et c'est tellement vrai que je me souviens cet exemple d'une maman qui accompagnait sa maman, donc une grand-mère, à l'église, et qui à un moment la laisse seule. Et elle lui dit « Mais tu ne vas pas t'ennuyer tout seul ?» Et la vieille personne de dire « Mais je ne suis jamais seule !» Parce qu'elle avait habitué à vivre à la foi, elle savait demeurer. Elle savait écouter, elle savait suivre, elle touchait l'invisible. Et donc quelque part, on réapprend à vivre ce contact avec l'invisible. Et c'est progressif. Et la foi doit nous envahir. Et d'acte de foi en acte de foi concret, nous arrivons à vivre tel quelque part que Dieu l'a voulu, avec le bon sens, une plénitude. Je prends deux exemples sur la foi. C'est pour certains, vous avez peut-être vu ce film Indiana Jones, la dernière croisade, et le film Matrix. Dans la dernière croisade, Sean Connery dit à Harrison Ford, « Faut que tu traverses en gros à un moment donné un ravin. » Il lui a donné un petit carnet pour lui expliquer les impasses. Et dans ce carnet où il explique les impasses, et il sait qu'il y a des épreuves à passer, il évite les lames, les couteaux, etc. Et à un moment donné, il se retrouve au ravin. Donc j'allais dire, avant, il lui a donné plein de bonnes raisons, intelligence, pour arriver jusque-là. Et à un moment donné, il est dans le vide et il se passe qu'il faut qu'il avance parce qu'il doit trouver le Saint Graal. Et il y a deux solutions. Soit il s'arrête, il dit « je me fie simplement à ma raison et basta », soit alors on va plus loin. Et en fait, il va poser un acte de foi. Et cet acte de foi, en mettant un pied dans le vide, s'il n'y a rien, il tombe. S'il y a quelque chose, ça apparaît. C'est exactement le processus de notre vie. C'est-à-dire, j'ai toutes les bonnes raisons d'aller jusque-là, mais à un moment donné, il faut que je pose un acte supérieur à mon intelligence, écouter du dessous, obéissance de la foi, en m'appuyant sur ce qu'on m'a dit, et de faire confiance, et je vais faire l'expérience si ça marche. Et le pont apparaît. Et dans un autre, je vais vous prendre un autre exemple. Donc c'est ça l'acte de foi. À un moment donné, c'est accepté. On avance avec ses bons raisonnements, mais après on va plus loin. On accueille une lumière supérieure. Et on apprend à vivre avec cette lumière supérieure. Et quand on a appris à vivre avec cette lumière supérieure, au départ, croit pour comprendre, selon saint Augustin. Après, on peut dire, comprends pour mieux croire. Tu dois nourrir ta foi. Tu dois l'entretenir comme un feu, mettre des bûches dedans pour que le feu s'alimente. Et là, Dieu ne demande pas non plus de démissionner avec son intelligence, mais d'alimenter l'intelligence. Donc ce qu'on fait, c'est ça. D'ailleurs, j'invite, c'est pour ça que j'ai amené des livres, à lire le Youkat. Il faut alimenter les bûches pour aller plus loin. Parce que Dieu veut toucher, la foi veut toucher sur toutes les dimensions de notre être. Je prendrai un dernier exemple de cinéma, comme j'ai dit, Matrix. Dans Matrix, c'est très intéressant, on a Neo, le héros, qui quelque part est dans la matrice, il ne le sait pas, mais il se pose des questions de c'est quoi la matrice, c'est quoi le sens des choses. Donc quelque part, il se pose des questions existentielles. Et à un moment donné, il fait confiance à quelqu'un qui s'appelle Morpheus, qui lui dit « Écoute, tu veux savoir ce qu'est la matrice ? Suis-moi. Tu peux me suivre ou pas ?» C'est exactement ce que dit Philippe à Nathanaël. Viens et tu verras. Et il va faire confiance. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va percevoir la réalité très différente. Qu'il était aveugle sur la réalité. Que la réalité est tout autre. Et en fait, l'expérience de la foi, c'est pareil. C'est-à-dire, nous passons de l'état aveugle à l'illumination. Non pas qu'avant, rien n'était vrai. Parce que le monde est fondé sur le sens, nous avons dit. Mais nous comprenons mieux les choses. Et c'est pour ça même des fois que nous ne saurons pas le communiquer aux autres, parce que ce que nous dirons, les personnes qui peuvent être sourdes ou aveugles, c'est les paraboles de l'Évangile, Jésus qui guérit les aveugles et les sourds, ne comprendront pas la réalité que nous vivons, parce que la foi est une illumination, la lumière de la foi.